Bienvenue à la French Connection. Cette semaine, nous allons aborder un segment technique avec Guillaume.
Salut, ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, ça va bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé au podcast, fait que je suis content d'être de retour.
Effectivement, nous sommes également très intéressés à ton retour puisque tu nous abordes des segments techniques très intéressants. Autre segment technique, les nouveaux Mac viennent avec la chip T2 et ça change un peu la sécurité et les façons de faire qui viennent avec ces plateformes-là.
Oui, absolument. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des Mac dans leur environnement, ce qui se passe depuis environ un an, en fait, c'est le iMac Pro qui est sorti au mois de décembre, a introduit le nouveau chip T2 qui est un peu comme une espèce de TPM plus pour Mac. Donc, il y a l'iMac Pro qui a ce chip-là. Les nouveaux MacBook Pro qui viennent de sortir au mois de juin cet été ont aussi ce même chip-là. Puis donc, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le prochain iMac qui va sortir avec les nouveaux processeurs Intel, probablement 6 Core bientôt, vont aussi l'avoir. Donc, je m'attends à ce que, à mesure que les nouveaux Mac sortent, chaque modèle va finir par avoir le T2 ou peut-être le chip qui va le suivre, qui sera probablement le T3 ou quelque chose comme ça. Mais ce que ça a d'intéressant pour les équipes TI qui gèrent des Mac, puis les équipes de sécurité qui ont des Mac dans leur environnement, c'est que ça change beaucoup la façon de déployer macOS sur ces postes de travail-là. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec le T2, c'est pratiquement impossible de créer une image d'un Mac. Ben, en fait, créer l'image d'un Mac, c'est tout à fait possible. L'envoyer sur un autre Mac, c'est tout à fait possible, mais elle ne va pas booter. Donc, c'est pas super pratique. Puis ça change beaucoup les processus que certaines compagnies ont en place pour déployer des postes de travail sur Mac. Je pense pour la sécurité, c'est une super bonne affaire parce que dans le fond, on s'assure que un Mac va avoir une version du système d'exploitation qu'on sait qui est clean. Mais ça change beaucoup des processus qui sont en place depuis assez longtemps. Puis ça peut causer d'autres problèmes auxquels on ne s'attend pas. Donc, la façon clean de déployer un Mac, en gros, puis on va mettre dans les show notes, là, il y a eu une présentation à la conférence Mac Admin cet été qui va vraiment dans plus de détails. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui gère vraiment des Macs puis qui veut vraiment regarder dans les features précises puis les outils open source qui sont disponibles pour faire ça, comme Monkey ou MicroMDM, on va mettre quelques liens dans les show notes. Mais d'un point de vue de sécurité, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que il y a les MDM pour la gestion des devices, donc soit des devices mobiles ou même les Macs sont gérés par MDM, Windows un peu de plus en plus aussi. Puis, il y a le Apple DEP. Donc, avec le DEP, qui est le Device Enrollment Program de Apple, ce que ça permet, c'est d'aller dire ce Mac-là, puis avec des informations pour identifier ce Mac-là précisément, dire je veux qu'il soit configuré de façon à ce que la première fois qu'on l'allume, il y a un enrôlement qui se fasse puis qui se connecte à mon MDM. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisaient avant. En gros, ce que ça permettait, c'était de sauver du temps. Dans certains pays, vous pouvez même commander un Mac, le faire pré-enrôler, puis quand l'utilisateur va le recevoir, il va ouvrir son Mac, il va déjà avoir le nom de votre compagnie qui va apparaître. Next, 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 répond à quelques questions. Le MDM va s'activer, puis ensuite, vous déployez les logiciels que vous avez besoin, soit à travers votre MDM, parce que par MDM, on peut déployer des logiciels. Il y a beaucoup d'MDM qui ne supportent pas ça, puis les SDK pour ça, puis les API ne sont pas super avancés. Donc, ce que la plupart des gens font, c'est à partir du MDM, on lance un script qui va installer le logiciel qu'on utilise pour le déploiement. Puis, bon, dans un monde idéal, tout est parfait, tout est beau. Puis, d'un point de vue de sécurité, on sait que c'est une image qui vient d'Apple pour le système d'exploitation, puis le reste, c'est juste rajouté par après. Donc, les équipes de sécurité puis les équipes TI, là, si vous n'avez pas déjà fait l'utilisation de DEP avec votre MDM, je vous recommanderais vraiment tout de suite de commencer à regarder ça. Puis, les Red Team qui nous écoutent, ben, ça veut dire que vous aurez probablement plus des images de macOS qui traînent à gauche puis à droite que vous pourriez aller targeter pour insérer des petits backdoors dedans. Tout ça, vous allez plus focusser sur les packages que l'équipe va déployer par après. Puis, les problèmes que vous allez avoir avec ça, c'est surtout si vous êtes dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de bandes passantes, où vous avez des bureaux dans vraiment beaucoup de pays. Donc, par exemple, si vous avez un Mac qui est N'importe où qui a besoin d'être réinitialisé parce que, je ne sais pas, vous faites un incident response, vous avez pris une image de cette machine-là, vous voulez la wiper pour la remettre en circulation, bien, premièrement, l'image que vous avez prise, vous allez avoir pas mal de difficultés à la booter sur un autre Mac si vous avez besoin de faire ça un jour. Puis, deuxièmement, si vous n'avez pas beaucoup de bande passante, puis vous essayez de faire un restore de macOS, bien, la plupart des Macs maintenant vont aller chercher sur Internet d'Apple directement. Donc, faire attention de faire ça d'une place qui a beaucoup de bande passante. Puis aussi, il y a certains pays où DEP n'est même pas disponible. Donc, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des bureaux en Chine, par exemple. Bien, il n'y a pas de DEP en Chine. Donc, comment on fait pour configurer des Macs de façon sécuritaire en Chine? Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a une bonne idée, laissez-moi savoir. Mais là, il n'y a pas de DEP, puis on ne peut plus déployer des images. Fait que c'est un peu embêtant. Là, j'imagine que ça va finir par arriver, quoique la version DEP China Edition va peut-être avoir une couple de petits ajouts, une couple de petits backdoors gouvernementales. Mais donc, c'est vraiment le temps de commencer à regarder ça. L'automne s'en vient, les nouveaux Mac vont finir par sortir un jour. Puis, on va vraiment être obligé d'utiliser ça partout. Fait que dans le fond, c'est comme si Apple nous forçait à utiliser des fonctionnalités qui existent aussi côté Windows avec les TPM, avec BitLocker, avec le Secure Boot côté PC. C'est juste que côté Mac, on ne peut plus vraiment les mettre à off là, de façon simple. Il faut juste penser qu'un Mac va rattraper iOS pas mal côté sécurité du système d'exploitation. Fait qu'on n'a plus la facilité de mettre tout ça à off, ce qui va être super bon pour la sécurité, mais ce qui va peut-être embêter quelques sysadmins au début.
Ça va être un changement de façon de faire, mais effectivement, on va devenir dans des jardins plus restreints où la capacité de faire des choses. Puis c'est un peu le prix à payer pour augmenter la sécurité des systèmes. Il faut qu'on ait des images trustées, puis des images trustées dans ce cas-ci. Apple a mis énormément d'énergie, du moins du côté iOS, pour avoir des structures PKI très robustes avec des clés et tout. Puis on commence à voir la chip T2 était ça. Elle permet, dans certains cas, même d'utiliser du Touch ID, fait que c'est toute une chose en soi très intéressante qui amène des volets nouveaux. Mais ça, le downside, c'est qu'on ne peut plus tricher comme on faisait ou faire des choses sur la slide comme on faisait avant. Puis maintenant, il faut respecter le protocole. On peut plus.
C'est ça, mais dans certains environnements, par exemple, t'sais, si tu as un environnement qui était vraiment à très haute sécurité, par exemple, qui est complètement air-gapped, ben là, on a un problème parce que un truc comme DEP a besoin d'accès à Internet. Ça amène d'autres challenges, mais quoique, je pense que c'est assez rare que des gens roulent des Macs gérés par un MDM cloud dans un environnement air-gapped. Là, je pense que ça viendrait tuer le gap pas mal directement. Sauf que si vous avez des Macs dans un environnement super sécurisé qui sont peut-être même pas gérés par MDM, ben vous allez être obligé de faire au moins la première partie de l'installation à la main, d'installer les outils que vous allez avoir besoin par après pour gérer ça de l'autre côté. Puis aussi, si vous avez des postes de travail qui sont dans des environnements réseau qui sont pas nécessairement ultra sécurisés, mais que côté Internet, les accès sont très limités, là, ça devient de plus en plus difficile de rouler un Mac sans au moins y laisser accès à contacter les différents serveurs d'Apple, que ce soit les serveurs iCloud, les serveurs pour les push notifications, puis les serveurs pour le DEP. Là, ça devient vraiment, vraiment difficile de travailler sans ça. Donc, les équipes de sécurité, là, si vous avez une équipe TI qui vient vous voir bientôt puis qui demande d'ouvrir de plus en plus de connectivité vers ces services-là, ben, regardez en détail c'est quoi puis qu'est-ce qui se passe. Puis peut-être qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de travailler sur utiliser DEP, MDM. C'est un super bon moment de leur parler pour être certain que ce processus-là va être bien fait. Parce que, bon, côté technique, oui, on va avoir des chaînes de signature qui sont plus clean, le système d'exploitation va être plus clean, mais qui a accès au portail DEP sur le site d'Apple, par exemple? Ça permet de contrôler vos postes de travail quand même. Qui a accès au MDM? Puis, by the way, le DEP d'Apple ne supporte toujours pas Samon. Donc, vous allez vous amuser à gérer des comptes locaux dans le DEP d'Apple parce qu'apparemment que de pouvoir utiliser ses identités d'entreprise là-dessus, c'est pas une priorité pour Apple. Là. Mais comme le reste du portail qui est pas super beau, qui est pas super rapide, puis qui d'ailleurs, j'espère qu'ils vont améliorer un peu la disponibilité de ça parce qu'il y a eu du downtime quand même assez fréquemment dans la dernière année. Mais maintenant qu'ils vont forcer tout le monde à l'utiliser, je pense que quand ça va être down pendant 2-3 heures, ils vont peut-être entendre crier un peu plus fort. Fait. J'espère que dans un an, qu'on va en reparler, quand tous les Mac auront un T2 ou un T3, ça va être un outil quand même assez robuste.
Probablement, mais Apple, l'entreprise n'a jamais été une priorité pour Apple, donc c'est sûr que ça arrive dans un contexte très intéressant, mais je sais qu'en même temps, il y a certains outils qui sont disponibles de point de vue, là, l'espèce de trousse macOS serveur dans lequel sont capables d'être un relais pour un certain nombre de choses. Donc, tu n'es peut-être pas nécessairement obligé d'ouvrir l'ensemble de ton réseau des postes pour accéder au serveur d'Apple quand tu peux avoir un relais qui lui fait.
Ouais, tu peux faire du caching, des choses comme ça, mais d'ailleurs, justement, le server.app là, qui a remplacé macOS Server, il y a beaucoup de fonctionnalités qui disparaissent de server.app à chaque release. Tu sais, donc, dans macOS Server, il y avait un genre de OpenLDAP, il y avait un wiki, un serveur email, un serveur DHCP. Moi, personnellement, je m'étais toujours dit, qui utilise ça quand tu pourrais te monter un serveur Linux puis avoir des versions à jour de tout ça? Mais il y avait quand même des intégrations assez intéressantes avec les Mac. Ils ont vraiment commencé à enlever de plus en plus de features de là. Fait que, d'après moi, ce qui va rester dans server.app, ça va être le système de caching. Puis c'est à peu près tout, tu sais. Puis encore là, les Mac Mini, le dernier update date de 2014. On roule ça sur quoi? Là, on s'achète des iMac pour les utiliser comme serveur pour faire du caching. Fait que je pense que c'est peut-être pas à long terme une super bonne solution, sauf pour le caching.
On achète un Mac Pro.
Ben même ça, ils les ont pas. Tu sais, supposément qu'ils vont les updater l'année prochaine. Mais encore là, ils ont pas updaté puis ils ont à peine changer le prix, mais au moins, si vous avez un vieux Mac Mini qui traîne quelque part, là, de faire le caching, ça va beaucoup vous aider, parce que même côté iOS, là, quand il y a un paquet d'applications qui sont updatées, que beaucoup de gens utilisent, là, tu sais, comme Facebook, c'est une grosse application, si vous avez 1000 iPhones sur votre réseau qui l'update en même temps, ça prend beaucoup de bande passante, mais on peut en ce moment toujours pas avoir notre propre serveur DEP, fait que ça aide pour une partie, mais pas pour tout. Fait qu'en tout cas, avec l'automne qui s'en vient, je pense que c'est une bonne opportunité pour les équipes de sécurité de parler à vos équipes TI qui gèrent des Macs, s'assurer qu'ils vont commencer à faire ça de la façon qui est sécuritaire avec DEP. Puis s'ils le font pas encore, ils n'auront pas le choix. Fait qu'aussi bien de travailler avec eux tout de suite pour monter le processus puis s'assurer que il n'y a pas juste la sécurité technique qui est bonne, mais la gestion de tous ces outils-là autour qui doit être aussi sécuritaire qu'elle reste là, pour qu'on s'ouvre une porte. Un MDM qui n'est pas sécurisé, c'est une super bonne backdoor pour tout le monde qui veut gérer vos Macs à votre place. Donc, ça va être un automne intéressant.
Effectivement. Puis de toute façon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de Macs en entreprise. Puis ils sont malheureusement des orphelins, contrairement à toute la structure très robuste de gestion Windows. Quand on arrive avec les Macs, c'est vraiment pas à la même hauteur ou avec la même rigueur que c'est fait. Donc,
Il y a une partie de ça qui est due à comment les Macs sont arrivés dans les entreprises. Tu sais, au début, c'était « Ah, ben c'est juste 5 postes de travail dans notre équipe de marketing ou dans notre équipe de design. » Puis après ça, c'était « Ben c'est juste une couple de MacBook Air pour les exécutifs. » Puis tranquillement, pas vite, il y en a eu de plus en plus, sans qu'on le voit comme quelque chose qui allait devenir massif à un moment donné, qu'il y a ça. Mais il y a aussi le fait que les Mac puis Active Directory, c'est pas une histoire d'amour vraiment incroyable. D'ailleurs, de plus en plus, la manière que les gens travaillent est pas nécessairement vraiment bien appropriée à l'utilisation d'un Active Directory qu'on peut toujours rejoindre. T'sais, les gens travaillent de la maison, ben Active Directory il est pas rejoignable. Les gens travaillent de quelque part d'autre. Il n'est pas rejoignable jusqu'à temps qu'on se connecte en VPN, puis là, il devient rejoignable. Puis il y a eu tellement de bugs par rapport à la connectivité Active Directory dans macOS dans les dernières années. En fait, ce qui s'en vient, qui commence à exister avec certains fournisseurs de MDM, quoique à date, les Red Teamers qui nous écoutent, là, si vous avez un MDM qui simule un genre de connectivité Active Directory en comme créant des versions locales des comptes AD, si vous voyez ça dans un environnement, là, je vous suggérerais fortement de regarder parce que j'en ai vu aucun qui fait ça d'une manière qui semble même être moindrement sécuritaire. Mais le principe est que dans Active Directory, on dit bon ben ce poste de travail-là, il appartient à Nick. Donc, on veut créer une version locale du compte de Nick sur son poste de travail. Ça veut dire qu'à un certain moment donné, il faut attraper le mot de passe Active Directory puis le mettre local. Ben, il y en a certains MDM, la manière qu'ils font ça là, est vraiment pas granulaire. Puis je trouve que il y a des trucs qui font peur, là. Donc, automatiquement, on va aller copier des hashes de des comptes de service sur ces postes de travail-là, au lieu d'attendre que ce compte de service-là ait été utilisé dessus. En tout cas, il y a du fun, il y a du fun à avoir. Mais, il y a un projet open source qui est super intéressant si vous avez des Mac puis vous avez besoin de, utiliser un domaine Active Directory.
Mais en même temps, là, pour reprendre ce que, tu dis, c'est le modèle de travail a changé d'un environnement où l'AD était le point central, puis au point de vue gestion, administration des systèmes. Puis dans le fond, c'est ça le point fort de l'AD. C'est tout un outil de gestion centralisée des comptes et des machines serveurs et post-clients. Quand on se dirige tranquillement vers un environnement décentralisé où le monde amène soit son contexte bring on your own device ou de machine exactement moins bien intégrée à l'AD, c'est que c'est comme un peu.
Ben donc, c'est ça l'outil que je trouvais super intéressant pour ça. C'est un outil open source qui est encore très alpha, là, déployé pas ça en production, mais ça commence à être assez intéressant. Ça s'appelle Easy Login. Vous pouvez aller voir sur easylogin.pro. Je pense que c'est le premier site web legit que je vois avec un point pro, by the way. En gros, ce que ça fait, c'est que ça s'intègre à votre processus de déploiement entre le DEP puis le MDM. Pour l'instant, il fonctionne juste avec AirWatch parce que AirWatch est un des... À certains, dépendant quand est-ce qu'il y a eu une mise à jour de macOS, là, il y a beaucoup de périodes dans l'année où AirWatch est le seul MDM qui supporte toutes les fonctionnalités de MDM, incluant le déploiement des packages puis des trucs comme ça. Fait que l'idée, c'est on a notre DEP, on fait le enrollment, le MDM est activé. Le MDM va lancer un script qui va déployer Easy Login sur vos Mac. Puis Easy Login utilise juste les API built-in de macOS pour l'intégration Open Directory. Donc, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va mapper des utilisateurs à des comptes, puis à des comptes ordinateurs dans Active Directory. Donc, le Mac, il n'est jamais bindé pour vrai sur l'Active Directory. Mais ce qui se passe, c'est que à travers un API avec un service web, le Mac est capable de recevoir le mot de passe de cet utilisateur-là de façon locale en utilisant juste des API de Mac. Donc, la personne est capable de faire son premier login après que son Mac a été déployé. Donc, la personne travaille de la maison, on lui envoie son Mac flambant neuf qui vient directement de chez Apple. La personne l'ouvre, on fait le DEP. Le DEP va lancer le MDM. Le MDM va lancer Easy Login. Son compte à juste cette personne-là et non pas les comptes de toutes les personnes dans Active Directory va être placé sur ce Mac-là. Et puis, au premier login, la personne peut se loguer avec son compte AD sur son Mac sans jamais avoir une connectivité directe vers Active Directory. Puis, normalement, ce que vous faites, c'est que vous exposez juste les comptes spécifiques à travers cette API-là pour ne pas ouvrir votre AD au complet. Puis, étant donné que ça utilise les API built-in, ça permet même de faire un reset de mot de passe ou votre mot de passe expire, veuillez changer votre mot de passe, on utilise l'interface du Mac. Change le mot de passe, ça va connecter sur les services web, puis le mot de passe AD va aussi changer sans que la personne n'ait jamais eu besoin de se connecter à un contrôleur de domaine. Je pense que ça, c'est vraiment plus proche du modèle futur que tout le monde va être obligé de suivre, là, que ce soit avec l'utilisation de Azure AD ou d'un outil comme Easy Login ou une combinaison des deux pour ne pas avoir besoin d'être connecté directement à un contrôleur de domaine, puis vraiment tu sais, étendre l'authentification d'entreprise de façon plus large. Là, c'est sûr que côté sécurité, ça a des implications quand même assez, assez intenses, mais de vraiment pouvoir travailler comme il faut avec des comptes qui sont à jour, puis que ça soit rapide, je pense que c'est vraiment un must. Mais encore là, comme on disait tantôt, Apple ne focus pas tellement sur les codes d'utilisation d'entreprise, puis il y a eu des bugs dans les dernières versions de Mac par rapport à leurs propres API pour Open Directory, qui fait que je sais que Easy Login a eu certaines difficultés avec certaines versions de Mac. J'espère que dans la prochaine année, Easy Login va devenir plus fiable avec Mojave qui sort la semaine prochaine. En fait, au moment où vous allez entendre ce podcast, va être sorti parce que je pense que c'est le 21 ou quelque chose comme ça.
Ah, c'était pas le 28?
Ah, peut-être. En tout cas, d'ici le mois de novembre, Mojave va être sorti. J'espère que les API vont être plus stables pour DEP, MDM ainsi que Open Directory. Puis si oui, ben j'espère que d'ici un an, là, on va commencer à avoir des entreprises qui ont un déploiement de leur Mac qui est moins affecté par les bugs de Active Directory, mais surtout qui sont sécurisés comme il faut, puis qu'il n'y a pas un paquet de scripts un peu louches qui font des choses à la main qui ne devraient pas trop se faire.
Mais c'est ça c'est comme sur Windows, là, ces scripts louches-là qui se démarrent, c'est pas mieux non plus. Donc, on est dans un environnement...
Non, c'est clair. Mais sauf que sur Windows, il y a encore souvent l'utilisation, tu sais, des comptes cachés, là, du genre, bon, ben ton laptop, il faut que tu sois sur le réseau la première fois que tu vas te loguer in. Pour que... Ce qui n'est pas... c'est pas clean non plus, dans le sens où ça force la personne à se connecter au moins un VPN avant d'être logué in pour être capable de... Tu sais, c'est... Le modèle était très bon en 1999, là, tu sais.
Oui, c'est ça. C'est un modèle ancien. Ça aussi, il faudra que ça évolue.
Puis, on pourra parler de ça dans peut-être un mois ou deux, mais Microsoft pousse aussi pour avoir une expérience de premier boot d'un poste de travail flambant neuf avec Azure AD, sans interaction de l'usager qui permet de faire un truc similaire. Pour l'instant, ça s'est supporté sur les Surface, puis quelques modèles de Dell et de Lenovo, je pense. Mais c'est quelque chose qui s'en vient, qui va devenir de plus en plus populaire côté Windows aussi.
Oui, ben ils déplacent vers leur Windows Desktop Services qui vont être finalement des desktops gérés par Windows, par Microsoft directement à travers le nuage Microsoft. Fait qu'on va rencontrer la même problématique que tu mentionnais au niveau de DEP puis cet accès à Internet. Quand la machine est scrap, ben, il va falloir avoir un accès à Internet pour l'aider à repartir. Ça, je pense que Windows aussi, Microsoft aussi s'en va vers là.
Oui, c'est très, très similaire comme modèle. C'est juste un peu plus compliqué, je pense, pour Windows, étant donné qu'il faut que tu supportes un paquet de marques différentes, puis qu'il y ait les fonctionnalités pour que les OEM puissent mettre leur logo, puis que ça fonctionne avec tous les différents drivers différents. Apple, c'est un peu moins compliqué. Là. Ils ont moins de modèles à supporter, puis de toute façon, ils ne les updatent même pas, fait que c'est encore moins compliqué.
Oui, effectivement. Bon, ça fait un bon tour quand même pour ça. On a un peu même débordé du T2 dans ce cas-ci pour voir tous les modèles qui sont associés au Mac. Fait que c'est sûr qu'on va devoir en reparler. Toi, tu disais que pour Windows, mais il y a d'autres choses qu'on va devoir peut-être réexplorer quand moi va être disponible et ainsi de suite. On fera un deuxième tour de roue sur ces sujets.
Exactement.
Fait que c'est bon. Fait que sur ce, bonne semaine.
Merci beaucoup. Bonne soirée.